Fred Film Radio, Cinéma du Real, Paris, France.
Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro vous parle en direct du Centre Georges Pompidou à l'occasion du festival Cinéma du Réel, et je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphane Breton qui présente Les Forêts Sombres en compétition internationale. Bonjour Stéphane Breton.
Bonjour.
Alors, vous êtes un documentariste ethnologue et vous avez beaucoup exploré la Nouvelle-Guinée. Vous avez même vécu parmi des Papous en parlant leur langue, mais vous avez aussi par la suite filmé au Nouveau-Mexique, au Népal, à Paris, au Kyrgyzstan et en Russie. Et dans Les Forêts Sombres, on se trouve en Sibérie et on suit un personnage qui s'appelle Boris, qui est un ancien détenu qui est revenu qui a passé beaucoup de temps en prison pour meurtre de sa femme et qui revient dans la maison de ses parents, dans un village vide, seul, des gens sont morts, des gens sont partis, et dans une communauté un peu désœuvrée qui fait du travail journalier, qui boit beaucoup, une communauté parmi laquelle il est quand même assez seul. Et donc on suit tantôt un récit qui est dit par Denis Lavant, tantôt des fragments de son humble quotidien. Comment avez-vous trouvé ce personnage de Boris ?
Et j'ai croisé son chemin et je ne l'ai pas trouvé, je suis tombé dessus. Trouver quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans un documentaire. Donc l'histoire du film, on peut presque dire que c'est l'histoire de la quête d'un personnage ou d'un groupe de gens. Et c'est toujours au dernier moment que ça se fait ou assez tard. Donc voilà, je suis tombé sur lui, un peu un coup de bol, et puis il représentait bien ce qui se passait, et puis surtout il m'a parlé, il est venu vers moi, il avait une histoire assez que d'autres m'ont racontée, lui ne m'a pas tout dit, puis petit à petit j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai mis longtemps à comprendre qu'il avait tué sa femme, il ne me l'a jamais dit, d'autres me l'ont dit, il le laissait entendre, c'est très compliqué, donc ce personnage n'était pas un personnage, c'était une énigme, c'était un film.
Le texte qui est dit par Denis Lavant, on suppose que ce sont les mots de Boris, dans quelle mesure ont-ils été réécrits ou pas?
C'est moi qui l'ai écrit, bien sûr, c'est le film qui parle, mais à partir de ce que j'ai entendu, à partir de ce qu'il m'a dit, à partir de ce que d'autres m'ont dit de lui, à partir de choses que j'ai suspectées, imaginées, senties à propos de lui. Donc c'est un texte qui raconte les choses à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. On parle de lui, puis tout d'un coup il dit « je », et c'est dans la même voix, dans le même mouvement, presque dans la même phrase, et c'est le même comédien qui raconte, Denis Lavant. Donc on passe comme ça en permanence de l'intérieur à l'extérieur, du monde à l'intériorité de ce personnage qui est pas complètement simple, pas complètement sincère, énigmatique, déchiré, et donc ça fait une belle aventure tragique, peut-être triste, je sais pas.
Mais on a l'impression d'une résignation, de quelqu'un qui vit et qui continue de vivre.
Oui, il est résigné, et puis il a pas grand-chose à faire, par ailleurs. D'autres que de se résigner, c'est le cas de la plupart des gens, de se résigner. Donc la résignation n'est pas une mauvaise chose, et c'est pas une chose inintéressante, parce que c'est une forme de sagesse aussi. La résignation. Et donc, voilà un personnage qui est assez mutique, pas mal poivreau, et qui, tout de même, dans ce petit coin du monde paumé où personne ne vienne les voir, donc quand j'arrive, évidemment, on fait un petit peu plus attention à moi, il s'épanche un tout petit peu, et puis je l'écoute, moi je dis rien, je m'assois, je suis là. Je l'écoute, donc les gens parlent beaucoup quand on les écoute. Il ne faut surtout pas poser de questions dans la vie.
Je vais vous en poser une autre alors. Justement, je voulais vous demander combien durait la période d'observation. Combien de temps vous restez avec ces gens avant d'allumer la caméra, ou est-ce que allumer la caméra...
Moi je dégaine tout de suite, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Mais l'observation, la période d'observation, elle se fait aussi avec une caméra. D'abord, il faut que les gens l'acceptent, la comprennent, comme moi aussi. Que moi je la comprenne avec eux, parce que chaque film est une nouvelle petite histoire compliquée avec des gens qu'on connaissait pas. Donc moi je pense ma relation avec des gens que je regarde avec une caméra. C'est ça un film documentaire finalement, contrairement à la fiction où la caméra n'arrive que quand la bataille est finie. Dans le documentaire, elle arrive quand rien n'a commencé. Donc c'est un peu merdique, c'est-à-dire que cette aventure se cherche et on ne commence pas à tourner quand le film est décidé, ou en tout cas construit, pensé, parce que ce serait trop tard. Donc voilà, la caméra est un instrument de relation, de compréhension, pour parer à l'ennui, parce qu'il y a beaucoup d'ennui dans un tournage documentaire. Et donc voilà, ça dure, on filme, on ne sait pas très bien ce qu'on filme, on creuse, hein, c'est comme si on creusait des trous.
Justement, par rapport à la caméra, il y avait une chose intéressante, c'est son positionnement dans le film, qui donne l'impression de mise en scène ou d'une composition de tableau, mais presque à l'envers, puisque les personnages ont cette tendance à ne pas être physiquement en rapport les uns avec les autres. On a un personnage qui va être debout en dehors de la caméra, un autre assis, un autre qui tourne le dos, et du coup, cette position de la caméra parmi eux est assez intéressante.
Alors, il y a un truc qu'il faut se dire et qu'on sent obscurément, à mon avis, mais qui joue un rôle vachement important dans le documentaire, contrairement à la fiction. Ce qui ne veut pas dire qu'il est meilleur que la fiction, mais il a une autre règle de placement de la caméra. C'est qu'une caméra dans un film documentaire, c'est toujours une caméra tenue par quelqu'un, posée par quelqu'un de réel, qui est là et à qui on peut dire non. Et donc cette caméra, elle occupe une place, je dirais pas la place d'un personnage, mais presque. Elle occupe une place qui est un point de vue. Et donc ce que vous décrivez très justement et finement, c'est, je pense, le fait que cette caméra, ce film raconte ça de manière presque fictive, comme une petite nouvelle, mais en même temps, il y a une caméra qui est là. Et ça se sent, avec des gens qui tournent le dos là-bas, des Angus là-bas. Alors c'est vrai qu'ils sont assez séparés, c'est vrai qu'ils ont une façon de se positionner qui est assez bizarroïde, mais la caméra là-dedans, elle occupe une place qui n'est pas complètement fortuite. C'est la place de quelqu'un qui a pu être là. Et j'ai l'impression que ça peut se sentir confusément, hein. Mais c'est pas une place de caméra de fiction.
Oui, mais en même temps, justement, elle est là comme un personnage avec la même solitude que les autres personnages.
Oui, qui est la mienne dans ce tournage et peut-être en général. Mais d'ailleurs, un tournage n'est possible, vous avez raison, parce qu'un tournage n'est possible que si la caméra elle-même, finalement, se met complètement à l'unisson de l'âme des personnages. Ça veut dire, adopte... Je ne me suis pas bourré la gueule pendant ce film, parce que ce sont des ivrognes qui boivent des litres et des litres de vodka. Mais donc j'ai pas fait ça parce que sinon il n'y aurait pas eu de film. Mais je dois leur ressembler tout de même d'une certaine façon. Il faut pas faire des efforts particuliers pour ça. Le seul effort à faire, c'est de se taire et de se mettre là où il y a de la place. Hein. Mais c'est vrai que la caméra, elle ne peut pas être n'importe où dans un film documentaire. C'est vachement important qu'elle soit dans une certaine position. Et je crois que ça se sent. Enfin, je le crois. Moi, quand je vois un film, je le sens tout de suite. Je sais pas si tout le monde le sent, mais ce que vous m'avez dit, c'est ça, dit d'une autre façon. Donc je crois que ça se sent. Voilà, on sent qu'il y a un truc, et c'est un peu une bizarrerie par rapport à ce qu'on connaît d'une fiction où la caméra peut être n'importe où, en dessous, au-dessus, à droite, à gauche, va-va-voum, c'est pas grave. Dans un documentaire, elle ressemble au monde, cette caméra.
Il y a une phrase très belle qu'a le personnage, enfin, qu'a le Denis Lavant, enfin, qui dit qu'il existe quelque chose en nous qui est toujours heureux, même s'il pleut, même si on a du boulot.
Bon, ce texte, cette espèce de récit, je l'ai écrit à partir de tout un tas de choses, des histoires qu'on m'a racontées, mais aussi de mes impressions propres. Et ça, c'est moi qui le dis, ce petit truc. Mais c'est exactement l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que je voyais des types qui étaient, dont la vie était absolument sans futur et sans espoir, à se rouler dans son vomi et à se biturer la gueule comme des dingues, et puis ensuite à regretter, parce que, je fais une petite parenthèse, mais l'alcool en Sibérie, en Russie, c'est pas du tout comme chez nous, où l'ivresse peut durer une nuit et ensuite on se réveille. Une ivresse, là-bas, c'est comme une nuit polaire. Ça peut durer 3 mois. C'est ce qu'on appelle le zapoy. C'est un voyage. Ça peut durer 3 jours, ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois. En général, les gens qui font ça quelques semaines finissent leur vie assez vite. Mais c'est un voyage, un mauvais voyage. Et cet homme entendait des voix, avait des hallucinations, enfin bon, il était cuit au sens propre. Il se réveillait de ses cuites infinies, comme tous les autres d'ailleurs, avec un terrible sentiment de honte, avec un malaise, dans un malaise moral terrible, une haine de soi épouvantable, et en même temps il recommençait, il pouvait pas faire autrement. Non. Et cette lutte, elle est... Je pense qu'on la sent dans le film. Cette lutte, elle est permanente. Et en même temps, elle n'empêche pas la bonne humeur, un peu d'humour, de l'énergie au travail, parce que de toute façon, il faut bien bouffer. Donc, elle n'empêche pas, oui, parfois même un tout petit bonheur. Voilà. Et c'est, moi, je fais des films sur un destin terrible et les petits bonheurs. C'est ça que j'essaie de mettre en vis-à-vis.
Alors, vous avez été directeur artistique de la collection L'Usage du Monde, qui a été produite par Serge Lalou, qui a aussi des films d'ici, qui a aussi produit ce film. L'idée était de perpétuer la mémoire d'une humanité locale. Et l'image finale est donc le personnage de Boris qui s'éloigne tout seul sur son chemin, qu'on voit s'éloigner. Est-ce que c'est une invitation à continuer ce voyage dans ces humanités un peu oubliées, ces petits morceaux d'humanité ?
C'est une image que j'ai voulu faire. C'était peut-être la seule image que je voulais absolument faire dans ce film. C'était une grande tranchée dans la forêt avec des pylônes de haute tension qui véhiculent un courant absolument invraisemblable, si bien que la ligne électrique vibre et qu'elle a électrocuté plusieurs vaches, et quand on passe dessus, on cavale parce qu'on a peur que le sel nous tombe sur la tête. Dans cette espèce de décor effrayant, étrange et beau, j'ai pensé que voir s'enfuir cet homme ou filer cet homme, c'était une bonne façon de dire quelle était sa vie, c'est-à-dire une vie dans une nature qui n'en est plus une, avec un destin qui est très pesant, et puis un homme qui continue à marcher. Donc c'est une image qui est assez sinistre, même dans un sens. Mais l'humanité est peuplée de gens comme ça, on leur ressemble un tout petit peu. Mais elle est peuplée de gens comme ça. C'est ça l'humanité. Hein. L'humanité, c'est des gens qui bravent la tempête. Donc voilà, c'est un portrait de l'humanité. Oui, donc il faut aller. Moi, j'aime beaucoup aller dans les petits coins perdus, les ourlets, les replis, tous ces endroits qui se désagrègent. C'est pas pour dire que les choses sont mieux là-bas, bien qu'elles aient beaucoup de qualités. C'est pas pour dire que nous devons, je sais pas quoi, suivre leurs leçons de sagesse ou toutes ces conneries. C'est parce que je crois, enfin j'aime regarder le destin humain en face tel qu'il est, et en même temps montrer des gens qui se tiennent droit dans des circonstances qui sont pas toujours très marrantes. Voilà. Donc la leçon morale que j'essaie de faire, c'est ça. C'est comment se tient-on droit quand tout nous encouragerait à courber la tête.
C'est un beau message. Merci de nous avoir parlé, Stéphane Breton. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.